Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue toujours sans public au Théâtre de l'Alliance Française pour Un Masque et la Plume consacré ce soir à l'actualité DVD Blu-ray VOD du cinéma avec Camille Nevers de Libération, Pierrot Pierre Murat de Télérama, Éric Neuf du Figaro et Michel Simon de Positif. On parle ce soir d'Alain Resnais, de Maurice Pialat, de Dino Rizzi, de Francis Ford Coppola, mais aussi de Pieces of a Woman de Cornel Mondruzzo et de The Nest de Sean Durkin dans le courrier de la semaine. À propos d'Emmanuel, de Juste Jacquin, monsieur Daniel Thierry remercie son masque d'avoir dit ses quatre vérités à ce touche-pipi consternant sur le fond comme dans la forme. Et Florence Lustre nous rappelle qu'en 78, 4 ans après l'immonde Emmanuel faisant l'apologie de l'érotisme par le viol, sortait le magnifique L'amour violé de Yannick Bellon. C'était la première fois que le viol était abordé au cinéma et ce film de Bellon est toujours d'actualité. Francine Pricam, qui est d'accord avec tout ce qu'on a dit ici, s'étonne pourtant qu'aucun critique de l'émission n'ait relevé l'aspect colonialiste insupportable de ce film tarte de mec blanc expatrié. À propos de
Diva. Il a suffisamment de défauts oui, comme ça.
À propos de Diva de Jean-Jacques Benex, Charles Chazot en garde, contrairement aux critiques du masque, un bon souvenir. Tous les clichés et l'intrigue si décriés par vos complices m'avaient ravi. Le loft, l'aquarium bleu, l'attraction, le phare, les chasseurs de son, l'intrigant Boringer, Jacques Fabry en commissaire véreux. Heureusement que le cinéma est fait pour les ignares comme moi. En revanche, pour Arnaud Sanquer, Diva, c'est du cinéma incroyablement daté, terriblement prétentieux et totalement vain. Refaites l'expérience avec IP5 et vous ne serez pas déçus. C'est tout aussi effrayant. Diva, ajoute Xavier Affre. D'Apieto encore, c'est comme l'ensemble de l'œuvre de Benex, indigent, criard et visuellement laid. Gaspard Noé n'en serait-il pas un triste héritier? Enfin, Lily, qui est scénariste et script doctor et qui habite la Belgique, n'a pas aimé les propos sévères de Michel Simon sur les séries. Je vous en conjure, monsieur Simon, je suis certaine que vous pourriez être bouleversé par des séries, y voir des constructions narratives exceptionnelles, aux personnages remarquablement dessinés, profonds et justes. Faites au moins l'exercice.
Mais j'ai jamais dit que j'avais pas des séries. J'ai mis simplement
si,
que
tu as dit, j'ai la dit dernière que tu...
les plus grands films sont supérieurs aux meilleures séries. Il n'y a pas l'équivalent pour moi en série des chocs que j'ai eus devant 2001 ou Citizen Kane ou des films comme ça. Donc c'est tout ce que je disais. À part ça, les séries, j'en regarde et je prends du plaisir.
Donc tu n'es pas allergique aux séries, on peut rassurer Lily.
Pas du tout, tu as raison.
Bon, et on commence, si vous le voulez bien, avec un film ultra primé au Festival américain de Deauville, puisqu'il a eu le grand prix, prix du jury de la révélation, prix de la critique. C'est The Nest de Sean Durkin avec Jude Law, Carrie Coon, Charlie Shotwell, un film qui, faute de sortir en salle en novembre dernier, où il était programmé bien sûr, est disponible en VOD sur MyCanal. C'est l'histoire en spirale d'une chute libre dans les années 80, donc période Reagan et Thatcher. Rory, c'est Jud Law, un entrepreneur anglais mégalo qui vit bourgeoisement aux États-Unis avec sa femme américaine Alison, c'est Carrie Coon, et leurs deux enfants décident de revenir à Londres avec sa famille pour y faire des affaires. Il leur promet monts et merveilles, un superbe manoir, la fortune, le bonheur, sans compter une écurie pour Alison qui est cavalière. À ce propos, il y a une scène qui fera frémir les amoureux de chevaux comme moi. Mais ça, c'est une fin de parenthèse. Évidemment, le rêve va tourner au cauchemar dans une atmosphère noire de, parfois de thriller un peu gothique. Pierrot?
Ben, c'est pas mal, mais c'est pas plus que ça. C'est-à-dire que je trouve que ce qui est réussi, c'est toute la première partie, c'est-à-dire le moment.
L'installation où... en Angleterre.
Oui, oui, non, mais quand ils arrivent là, et je trouve que, alors ce qui est très bien, c'est la musique qu'il a choisie, cette musique de jazz, qui crée absolument une ambiance, et puis la façon qu'a le réalisateur de filmer ces personnages presque petits dans l'immensité des décors. Et ça, je trouve que ça crée un décalage, une ambiance. Mais alors, le petit problème, c'est que je trouve que la décomposition du couple et de la famille me semble d'une part extrêmement rapide, donc un peu lourdaude, et quand j'entends les cris de certains confrères, certains critiques en disant que c'est inoubliable, que c'est un chef-d'œuvre.
Ce qui s'est passé à Deauville, hein.
Oui, bah alors, il faut pas, enfin, je sais pas, là, les gens ont quand même la mémoire courte, parce que, Michel, je pense, ne me contredira pas quand je dirais que il y a certains films de Joseph Losey comme Accident, quand même, qui sont beaucoup plus fins et beaucoup plus troubles sur cette décomposition familiale. Là, c'est quand même, ça y va quand même avec
Ça avance, plus ça y va. Dans le,
ah oui, oui, non, mais c'est la colossale finesse, comme je dis quelquefois.
Il y a un dîner notamment qui est.
Voilà, non, pas mais léger, léger. Alors je trouve que c'est un peu moins bien que ce que l'on dit.
Camille.
Oui, je ne comprends pas pourquoi Deauville il a remporté tous les prix, d'autant qu'à côté il y avait des films comme le Kelly Richard First Co., qui est quand même un très grand film qui a été totalement boudé. Non, bah, The Nest, c'est une sorte de, en effet, film un peu post-Losey, avec des ambiances comme ça de bourgeoisie lourde et empesée. Et donc, c'est en effet, savoir comment on filme un couple et une famille dans un décor, dans une demeure, avec l'espèce de récit gothique de à qui est-on marié, le mari toujours un petit peu veule, un petit peu mystérieux dans son métier qui dit.
Jude Law jouant assez bien la veulerie d'ailleurs. Hein.
Oui, mais pas si. Moi, j'ai beaucoup pensé à un autre film où, avec un personnage central totalement veule, c'était Match Point de Woody Allen, oui. Où Jude Law aurait pu jouer, mais ouais. Où le personnage dans le côté opportun. Tunis meurtrier et totalement dégénéré, était génial. Alors que là, il est un petit peu en deçà de tout. Mais sans doute que c'est dû à la façon dont le film se met en route, c'est-à-dire que la façon dont il y a deux films qui se regardent jamais vraiment, son film à elle et son film à lui, avec cette espèce de couple qui est censé s'aimer. Il y a une jolie scène de cul où on sent qu'ils s'aiment quand même, sinon vraiment on n'y croirait pas beaucoup à leur rapport et au fait qu'ils restent ensemble malgré tout, qu'elle reste avec ce type tout de même escroc et mythomane. Donc finalement le film est quand même très très guindé, très avec beaucoup d'intention de mise en scène, de cadre, mais qui effectivement n'est pas Losey, n'est pas avec cette espèce de rectitude de quelqu'un à qui on ne la fait pas un grand metteur en scène. Je pense qu'il se prend pour un grand metteur en scène, mais qui n'en est pas encore un, en tout cas, et que c'est un film qui ne fait pas oublier d'autres films de gothique et de terreur dans des grandes maisons, comme l'année dernière, on avait eu Invisible Man ou Swallow, qui était aussi sur des personnages comme ça de terreur. Et là, il n'y a pas vraiment de terreur, il y a juste un petit ennui bourgeois, quoi.
Michel et Eric, qui étaient à Deauville d'ailleurs, vous avez sacrifié.
Je crois qu'il ne faut pas exagérer cette multitude de prix, il faut voir le contexte. Je veux dire, c'est probable. Je n'ai pas vu tous les films de Deauville, mais c'est possible que c'était le meilleur film de Deauville. Ça ne veut pas dire que c'est un des grands films.
C'est beaucoup mieux quand même.
Non, moi, je trouve qu'il y a tout de même de vraies qualités. Ne serait-ce que le fait d'un acteur qu'on avait un peu voir disparaître, qui était Jude Law, qui revient et qui est très bon, de même que Carrie Coon. Je trouve ce que j'apprécie aussi, c'est qu'il n'accable pas ses personnages, c'est-à-dire qu'il aurait pu les accabler. Oh. Je trouve pas qu'il y ait une moquerie.
Il accable surtout un cheval.
Voilà. mais effectivement, vous m'avez enlevé les mots de la bouche. C'est vrai que quand on compare avec les films de Losey et de Pinter, on en est très loin. C'est ce qu'il voudrait faire, sans doute, mais il ne le fait pas. Mais c'est un peu le même problème de beaucoup de films d'aujourd'hui, si on les compare aux films des années 60.
Eric ?
Ah, moi, j'ai beaucoup aimé ça, je l'ai vu trois fois.
Oh, ouais.
Ah ouais. On pourrait appeler ça On enterre mal les chevaux ou Regarde un homme tomber. Mais moi, j'ai pensé à un autre film à cause du sujet, c'est Le mépris de Godard. Parce que c'est comment l'argent pourrit un couple de l'intérieur, son absence ou son trop-plein. Et on voit comment ce type qui est courtier à New York revient en Angleterre. Et il y a quelque chose de très Fitzgeraldien, Fitzgerald qui disait qu'il n'y a pas de deuxième acte dans la vie d'un Américain. Et là, Jude Law est tellement américain que même quand il retourne à Londres, il n'a plus ses marques. Et on voit qu'il cherche à tout prix de l'argent pour épater sa femme, pour lui donner la vie qu'elle a envie d'avoir. Il y a cette histoire de cheval qui est quand même magnifique, là, même si j'imagine que tu as dû souffrir
pendant
certaines séquences.
Il y a la
scène du dîner, je vous trouve très sévère, parce que je la trouvais épatante, très très bien écrite, avec cette actrice Carrie Coon, qui porte aussi le film à bout de bras sur ses épaules aussi, et Jude Law, qui trouve enfin le rôle d'imposteur qu'il aurait dû avoir dans Monsieur Ripley, au lieu que ce soit Matt Damon qui joue ça. Non, il y a vraiment quelque chose de de romanesque, de terriblement vénéneux, et j'ai trouvé que ça ressemblait au roman de James Salter, avec cette élégance qui contraste avec la fébrilité du héros, et comment l'argent, l'appât du gain, même dans un décor gothique, un manoir hors de prix, avec tous ces traders qui nagent dans les millions, il y a une déchéance, et l'amour ne peut pas exister dans ces circonstances-là. Et j'ai trouvé le film, mais vertigineux.
Mais Scott Fitzgerald, t'es bien gentil, parce que tu décris Scott Fitzgerald, mais c'est pas ce qu'on voit sur l'écran.
Moi j'ai trouvé. C'est...
Non, ce qui m'intrigue, c'est quand même de le voir trois fois. Ça me trouble. Deux fois, éventuellement, mais trois, ça m'intrigue.
C'est donc. À le voir une quatrième fois, mais pas tout de suite.
C'est donc The Nest de Sean Durkin. Non. Et c'est disponible en VOD sur MyCanal. Autre film qui était présenté cette fois à la Mostra de Venise et aurait dû lui aussi sortir en salle, c'est Pieces of a Woman. Du cinéaste hongrois Cornel Mundruczó avec Vanessa Kirby, Shia LaBeouf, Ellen Burstyn, et qui est disponible cette fois en VOD sur Netflix. Le film commence à Boston. Martha, c'est Vanessa Kirby, va accoucher et avec son mari Sean, qui est donc Shia LaBeouf, elle a décidé de mettre au monde leur enfant à la maison, à l'ancienne. La scène d'accouchement frontale est filmée en un plan séquence de, j'ai regardé ma montre, 23 minutes. Ça se passe bien jusqu'au moment, on peut le dire, c'est dans la première partie du film, où le cœur du bébé ralentit et s'arrête. Le couple ne va pas survivre à la mort du bébé. Il s'éloigne tandis que s'ouvre le procès d'Eva, la sage-femme, qui est jouée par Molly Parker, contre laquelle Sean a engagé une procédure. Positif a fait sa une de ce mois-ci sur ce film, il faut dire, là je parle pour moi, assez éprouvant, et parle d'un nouveau maître du cinéma américain. Tu maintiens, Michel ?
C'est-à-dire que Mundruczó, d'abord, il a fait des films déjà admirables.
Mais oui.
Delta, par exemple, qui était montré à Cannes, qui est un film formidable. Il a fait Jeanne d'Arc, un Jeanne d'Arc dans un hôpital qui s'appelait Johanna. Il a fait ce film étonnant sur les chiens, White Dog. Et c'est son premier film aux États-Unis. Et il faut dire que le passage...
J'entends bien, mais nouveau maître du cinéma américain.
Sur ce film, c'est un film de maître. C'est un film absolument magistral. Pas seulement ce plan séquence que tu as cité, de plus de 20 minutes, sur cet accouchement qui, finalement, devient un enfant mort-né, qui va marquer cette femme, qui va la détruire complètement, alors qu'elle n'a pas, elle, le souci de revanche contre cette sage-femme à domicile qui a raté la naissance de l'enfant. C'est sa mère, il y a un transfert, c'est-à-dire sa mère, jouée par l'extraordinaire Ellen Burstyn, qui, elle, a une soif de vengeance.
Et le mari aussi.
Alors qu'elle, elle n'est pas du tout dans ce registre-là. Elle essaye simplement de se recomposer après ce traumatisme qu'elle vient de vivre. Donc c'est un film, je trouve, absolument passionnant. Il y a un rapport, d'ailleurs, avec le début du film où il y a un pont qui s'effondre, qui est une sorte de métaphore de ce qui va arriver à l'héroïne. Ce que nous disons de dire, c'est peut-être emphatique de dire un nouveau maître, en tout cas c'est une révélation en Amérique d'un cinéaste européen, c'est pas la première fois, et Scorsese pense la même chose puisqu'il a accepté d'être producteur exécutif quand il a vu les rushs, il a vu la qualité du film, donc c'est une référence qui n'est pas mauvaise.
Eric ?
Je l'ai vu trois fois aussi, désolé.
Maintenant, tu vois tous les films trois fois
depuis
que les salles sont fermées.
Exactement. Et non, mais c'est un peu comme si l'héritière de Jenna Roland se retrouvait dans un film de Bergman. Parce que l'actrice est phénoménale, là, cette Vanessa Kirby qui jouait Margaret dans The Crown. Là. Et c'est vraiment un film, c'est le même sujet que Le Mépris et que The Nest.
D'accord.
C'est qu'est-ce qui fait exploser un couple ? Et là, c'est un bébé ou l'absence d'un bébé. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, on voit que le film s'étale sur 9 mois. Et je pense que c'est fait exprès. Et il y a cette construction du pont. Et on voit de mois en mois les deux parties du pont se rapprochant, alors que dans le couple, le mari et la femme n'arrêtent pas de s'éloigner. Et c'est comment cet accouchement à domicile, c'est vraiment pas une publicité pour cette façon de mettre un enfant au monde. Le film sépare vraiment les gens. Et le mari, lui, ne sait plus quoi faire pour... que ces deux-là restent ensemble, et la femme, elle, sa souffrance l'isole tellement, elle la tutoie, qu'elle vit dans son monde à elle, son corps la dégoûte, le corps de son mari lui indiffère complètement, et la mère fabuleuse, Ellen Burstyn, qui est terrifiante, hein, c'est elle l'exorciste là-dedans, qui essaye de réparer les morceaux, le mari aussi, s'il veut aller au procès, c'est parce qu'il ne sait plus quoi faire pour essayer de faire plaisir à sa femme qui est détruite de l'intérieur. Et cette Vanessa Kirby, dans son manteau rouge, avec ses cheveux peroxydés, on sent qu'elle hurle de l'intérieur. C'est un film qui est vraiment un choc énorme, comme pouvait l'être Manchester by the Sea à l'époque, en plus fort encore. Et ce réalisateur est quelqu'un avec qui il faut compter, hein, parce que l'installation aux États-Unis lui a fait un bien fou.
Je pressens que Camille n'est pas totalement de votre avis.
Ah oui, non, ça m'échappe totalement. C'est une arnaque totale. Mais non, mais déjà, j'ai eu du mal à aller au bout de la première fois. Ce plan séquence, je ne comprends pas qu'on puisse s'enticher d'une arnaque pareille, de ce dolorisme putassier qui fait qu'on nous filme en plan séquence quelque chose de totalement fake. Alors, on nous fait un chantage de l'authenticité sur la continuité d'un plan séquence, comme on fait, comme certains films le font aujourd'hui, comme faisait dans les années 50 la caméra subjective. On faisait comme ça des coups de cinéma, qu'on appelle des coups de poing. Et là, aujourd'hui, c'est les plans séquences. Alors, comme on a des caméras légères qui peuvent aller partout, on fait des trucs qui durent une demi-heure de plan séquence, comme il y a eu Victoria.
Mais c'est voulu, c'est parce que la douleur d'un accouchement n'en finit pas.
On ne peut pas qualifier de putassier un film qui est extrêmement éprouvant, difficile à vivre, parce qu'il est d'une telle dureté.
Non, je trouve qu'il est fake, totalement fake.
On peut tout lui reprocher, mais pas d'être putassier. Ce film n'a strictement rien.
Il fait un chantage à la robe sans couture du réel en nous montrant quelque chose de faux. C'est-à-dire qu'elle accouche pas vraiment. C'est-à-dire que forcément tout est fake et tout est mis en scène. Et c'est un film qui nous fait une sorte de chantage. Non, on fait pas de plan séquence forcément.
La fille, elle peut pas accoucher en direct.
Oui, on est bien d'accord. Mais pourquoi il nous fait un plan séquence pour faire genre c'est l'histoire vécue, c'est son histoire personnelle
d'intimité. Mais non, c'est pour montrer ce qui se passe dans le corps et dans la tête de cette femme pendant 23 minutes.
Pour moi, c'est insupportable. Je n'ai pas vu The Crown, donc je ne vois pas cette
c'est pas pareil.
Actrice. Je ne la connais pas, donc je la trouve pas spécialement. Voilà, Scorsese derrière avec Ellen Burstyn qui revient plutôt d'un autre mauvais film de femme qui était Alice n'est plus ici, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment autant on a au programme du masque toute une série de magnifique portrait de femmes là, qui vont suivre et qu'on connaît. Autant cette femme-là qui aurait pu être une sorte de sous perdue dans Manhattan, enfin quelqu'un d'extrêmement fort et en déshérence. Là, pour moi, c'est le film d'arnaque, c'est le film carte de visite américaine. Où le type, il va faire genre, je suis un grand metteur en scène et vous allez entendre parler de moi. Et ça n'est que du m'as-tu vu, ça ne nous épargne rien. La scène sous la douche, la scène dans la discothèque perdue, la scène de cul avec son mari qui tourne mal, chez la bouffe qui est tout le temps cadré plus ou moins à hauteur de caleçon ou de poil pubien, comme si c'était un super truc de faire à hauteur de caleçon un film. Enfin, je trouve que le film est totalement fake, c'est insupportable.
Le problème, Camille, c'est qu'une certaine tendance de la critique française a dit du mal de tous les films de Mundruczó.
Moi, j'en ai
et vous
vu
ne voulez
aucun,
pas reconnaître votre erreur, vous êtes tous
mais non, moi, je ne connaissais
pas
ce monsieur.
Et donc, Mundruczó, quoi qu'il fasse, sera assassiné comme d'autres, quoi qu'il fasse, seront
louangés. Il ne faut pas faire une attaque à l'homme. C'est vraiment, il faut me croire. Je n'aime pas plus les films.
Camille dit qu'elle n'a pas vu les précédents. Donc
non, je ne connaissais pas.
Mais dans son journal et dans d'autres journaux, Mundruczó a été non grata toujours. Donc il ne peut jamais faire un bon film.
Entre les deux camps, comment se situe Pierre ?
Eh bien, je me situe en disant en effet que ce monsieur Cornel Mundruczó est un très très grand réalisateur pour moi. Vraiment. Parce que, juste un truc, les films que tu as cités, Michel, il y en a White God, je conseille à tous ceux qui ont la gentillesse de nous écouter, de se précipiter pour voir White God, qui est une sorte de Spartacus chez les chiens, en quelque sorte. C'était d'une originalité. Il a fait aussi La Lune de Jupiter, qui était un émigré qui est écrit blé de balle et qui devenait presque un ange. Il a des idées, il a une originalité. Et là, je trouve qu'il y a un mystère, il y a une espèce de profondeur, il y a une douleur. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la douleur à la fois de cette femme, pas seulement dans le plan séquence, mais tout au long du film, en effet, qu'il rend très bien, l'actrice est vraiment bien, et même cet acteur dont j'arrive jamais à prononcer le nom.
Shia LaBeouf.
Oui, enfin, j'y arrive pas. Il est, alors qu'il est généralement nul, il est très bien. Je suis un petit peu d'accord en disant que c'est quand même un tout petit peu moins fort que les précédents, dans la mesure où il est obligé de faire quelques cadeaux, si j'ose dire, à Hollywood, et notamment, je ne raconte pas la fin.
Il y a des concessions.
Des concessions. Pardon, oui, c'est le mot que je cherchais. Et ce que je veux dire, c'est les scènes du procès, par exemple, à partir du moment du procès, qui est un genre que les Américains maîtrisent très bien, là, il se plante un tout petit peu. Mais c'est vraiment un auteur absolument, non seulement une révélation, mais la confirmation d'un très grand réalisateur.
C'est Pieces of a Woman, c'est Cornel Mundruczó, c'est sur Netflix. Et si vous voulez en savoir plus, vous avez le dossier de ce mois-ci de Positif. On va être plus rapide sur les quatre autres films que nous allons maintenant évoquer, s'il vous plaît. Peggy Sue s'est mariée, c'est avec Jardin de Pierre, l'un des deux films de Francis Ford Coppola des années 86-87 que les éditions Carlotta ressortent restaurées et, il faut le dire, très bien remasterisées. Si mon résumé vous rappelle Camille Redouble de Noémie Lvovsky, ne soyez pas étonnés, c'est le même principe, mais 25 ans plus tôt. D'ailleurs, je crois que Noémie Lvovsky, à l'époque, s'était réclamée de ce film de Coppola. Non, elle ne l'avait pas fait? Ah bon?
Non. Elle n'avait pas reconnu le plagiat.
Elle aurait dû le faire. Voilà. Avec sa fille Beth, qui est jouée par Alan Hunt, mais sans son mari Charlie, qui est Nicolas Cage, dont elle s'est séparée parce qu'il la trompait. Peggy Sue, donc Kathleen Turner, explosive Kathleen Turner, se rend à une fête d'anciens élèves de son lycée. Et là, alors qu'on l'a décrétée reine de la soirée, c'est au début du film, elle tombe dans les pommes et elle se réveille dans son corps d'adulte et dans le lycée d'autrefois, qui est celui des années 60. Elle retrouve ses amis de jeunesse, elle se réconcilie avec sa sœur incarnée par Sofia Coppola. Et elle fait tout pour rompre, évidemment, avec Charlie, sachant qu'ils vont se séparer 20 ans plus tard. La BO est signée John Barry. Et je vous signale, c'est très important, que c'est, je cite entre guillemets, le film préféré au monde de notre ami Jean-Marc Lalanne. Il était même très malheureux de ne pas être là ce
soir.
Mais
il va pas bien, non?
Donc je vous demande de ne pas le décevoir. Camille.
Ah oui, non, je risque pas de le décevoir. On en parlait il y a des années de ce film de Coppola qui, à l'époque, était pas trop aimé. Aujourd'hui, je sens que ça commence à prendre. Oui, c'est un film magnifique. Je l'ai encore revu. J'ai encore pleuré. C'est fou. C'est en même temps, c'est un film des années 80 dans tout ce que les années 80 avaient de plus beau, c'est-à-dire les paradoxes temporels. C'était quand il y avait Big, il y avait Retour vers le futur, tous ces films-là. Et là, Coppola en fait quelque chose d'un film très secret, très comme ça minimal sur la mélancolie, sur comment est-ce que quelqu'un qui revient dans sa jeunesse et qui peut-être ne referait pas les mêmes erreurs qu'avant, finalement finira par acquiescer à la vie en se souvenant du futur. Et donc il y a cette espèce de mélancolie d'une chronique d'une existence annoncée, comme Jardin de Pierre qui ressort aussi en DVD.
Alors qu'il n'a rien à voir. Hein.
Oui, mais c'est une chronique d'une mort annoncée.
Absolument.
Donc il y a deux
militaires.
Et c'est deux films très mélancoliques. Et Coppola, moi je préfère en fait le Coppola comme ça, sentimental, presque minélien, avec toutes ces interactions entre des personnages sentimentaux et quelque chose de très mélodramatique de Soleil couchant, comme chez Minelli. Il y a quelque chose de vraiment minélien chez Coppola qu'on ne reconnaît pas assez souvent. On se rappelle plutôt les Apocalypse Now, les choses un peu plus mastodontes, mais tous les rapports familiaux, le rapport à la grand-mère dans le film, et Kathleen Turner, qui était une comédienne vraiment des années 80, comme on parlera de Bonheur tout à l'heure, avec cette voix cassée, magnifique, qui est une sorte de vieille jeune femme qui traverse tout le film avec ses regard d'adulte, c'est vraiment, j'aime pas le mot chef d'œuvre, mais c'est vraiment un très très grand film secret de Coppola, très très touchant, et c'est le film dont la scénariste a fait son histoire, c'est vraiment la scénariste, elle allait divorcer, elle a écrit ce film
donc,
au moment de son divorce.
Jean-Marc va être très content, je signale d'ailleurs qu'il y a une double page de Jean-Marc Lalanne dans les Un Rock cette semaine,
sur le miroir,
où il dit vraiment, et de manière presque technique, les raisons de son amour pour ce film. Eric, est-ce que tu l'as vu trois fois?
Non, je l'ai vu à sa sortie et je l'ai revu là, mais j'aurais préféré ne pas le revoir. Je ne l'aimais pas à l'époque et ça ne s'est pas arrangé. Parce que c'est une drôle de période dans la carrière de Coppola, les années 80. Il est tellement criblé de dettes qu'il est prêt à faire n'importe quoi. Le film, à l'origine, était prévu pour Penny Marshall. C'est dire comme c'est intéressant. Et c'est lui qui a écopé du bébé, je ne sais pas pourquoi. Et il faut vraiment aimer le kitsch absolu, toutes ces couleurs criardes, cette guimauve, ces bagnoles multicolores. On voit bien que Coppola fait le malin, s'en fiche un petit peu. C'est bien parce que c'est un homme qui respecte la famille beaucoup. Il fait tourner Nicolas Cage, qui est son neveu, qui est l'acteur le plus calamiteux que nous a donné Hollywood, la plus belle tronche d'abruti du cinéma. Il est épouvantable. D'ailleurs, on ne sait pas ce qu'il est devenu. On aperçoit un moment dans le rôle de la petite sœur Sofia Coppola. Elle, on sait ce qu'il est devenu. Quant à Coppola, après avoir fait des mauvais Raoul Ruiz dans les dernières années, maintenant, il ouvre des hôtels et il s'occupe de ses vignobles. Et à mon avis, c'est ce qu'il a de mieux à faire.
Eh bien, Jean-Marc va être triste, Pierrot.
Il va être très, très triste.
Ah
temps en m'entendant, Camille aussi. Ouais. Et je précise que j'aime beaucoup Minelli, mais là, vraiment, là, je ne peux pas. Ah non, je trouve ça, mais...
Ah oui, en fait, on est toujours en 86. On est toujours à la sortie du film.
Mais je trouve ça atterrant. Parce qu'autant Jardin de Pierre est un film qui est très intéressant, autant celui-là, mais c'est d'une mièvrerie. Voilà. Et puis, ce retour en arrière, il n'en fait rien. Une fois qu'elle est revenue en arrière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut inventer le collant et la high-tech. Tu parles de quelque chose de...
Non, elle veut éviter de retomber dans les bras de Nicolas Cage.
Oui, Jérôme, j'ai compris, mais enfin, on ne peut pas être plus... Enfin, je sais pas. Tout est mauvais. Les actrices sont toutes nulles. Dans tout...
Quoi?
Ah oui. Elles sont insupportables. Elles sont pas nulles, elles sont insupportables. D'accord. Tous les mecs sont nuls, sauf peut-être Jim Carrey, parce que pendant 10 secondes, il fait des grimaces au fond à droite pour qu'on le remarque, et on l'a un petit peu remarqué à cause de ça. Non, je trouve ça, mais ça n'a aucun... Alors, je sais bien, Jean-Marc me dira plus bonjour, pardon Camille, mais là, vraiment, je ne peux pas trouver le moindre intérêt à ce pinsum criard, vulgaire et inintéressant.
C'est The Woman, mais en pire.
Michel,
écoutez, d'abord, ça me fait de la peine de critiquer ce film parce que Coppola est sûrement un des plus grands cinéastes américains de ces 50 dernières années. Il a fait plusieurs chefs-d'œuvre. Lui-même n'aimait pas du tout ce film. Il n'a pas écrit. Il était ruiné. Il avait fait un film magnifique qui s'appelait One from the Heart, qui était splendide, qui était extraordinaire. Ça n'a pas marché. Il était ruiné. Il a accepté de faire ce film. Il était stupéfait que ce soit un très grand succès, parce que c'était son plus grand succès depuis le deuxième Parrain. Et or, moi, j'ai revu ce film que j'avais relativement aimé à l'époque. Mais je me suis dit, mais il y a un miscasting, comme on dit, du metteur en scène. C'est-à-dire que quand on pense à Capra, à La vie est belle, quand on pense au chant du Missouri de Minelli, il y a une légèreté, il y a une fraîcheur, ou même le dernier film qu'on a vu au début de cette année, Les filles du docteur March, par exemple, il y avait une fantaisie, une aisance, etc. Ici, c'est plombé. D'abord, Nicolas Cage, effectivement, est vraiment pas bon du tout. Catherine Turner est à peu près la seule que je sauverais du film, sauf qu'on a du mal à croire à elle en adolescente. Et puis c'est l'éternel sujet de Coppola aussi sur le mariage. C'est-à-dire pour Coppola, tout mariage est un effondrement. Et ce film traite d'un effondrement. Il le veut malicieux, il le veut drôle. Je trouve que le film est extrêmement laborieux dans sa tentative de comédie spirituelle. Moi, je préfère le film de Noémie Lvovsky.
Eh bien, Peggy Sue s'est mariée, c'est donc Francis Ford Coppola. Je vous rappelle que c'est chez Carlotta et que vous trouvez également l'autre réédition d'à peu près de la même époque, hein, un an après, qui est son film Jardin de Pierre. Venons-en.
Lui est un film à redécouvrir.
Et il faudrait qu'un éditeur...
Jardin de Pierre est un film qui a été très mal vu, et qui est un film magnifique.
Oui, Tucker aussi, c'est la grande période.
C'est bien, oui.
Venons-en à Maurice Pialla, dont 10 longs-métrages sont disponibles sur Amazon Prime, parmi lesquels L'enfance nue, bien sûr, Nous ne vieillirons pas ensemble, Sous le soleil de Satan, Loulou, Van Gogh, et j'ai choisi de soumettre à votre jugement ce soir À nos amours, qui révéla en 83 la toute jeune Sandrine Bonner. D'ailleurs, elle avait reçu à l'époque le César du meilleur espoir féminin. Elle est Suzanne, 15 ans, en vacances sur la Côte d'Azur, où elle repousse Luc, qui est amoureux d'elle, pour se donner à un Américain inconnu sur la plage. Et de retour à Paris, elle va multiplier ses aventures amoureuses, tandis que ses parents se séparent. Ils sont joués par Evelyne Kerr et Maurice Pialla soi-même. Le frère jaloux de Suzanne, Robert, étant joué par Dominique Besnéard, avec toujours cette scène qui m'émeut toujours autant chaque fois que je la revois, où Pialla caresse la joue de sa fille et s'étonne. Avant, t'avais deux fossettes, t'en as plus qu'une. Elle est partie où l'autre? Pierre.
Eh ben, en le revoyant là, ce qui m'a frappé vraiment beaucoup, c'est la tendresse et la violence du film. Et la violence, c'est évidemment... On va y venir. Mais la tendresse, c'est-à-dire la longueur des regards, par exemple, que lance Sandrine Bonner, que ce soit au mec dont elle est un petit peu amoureuse, que ce soit à l'Américain qu'elle rencontre, à son père, à son frère aussi, lors d'une scène absolument bouleversante où elle lui dit « Tu ne m'as jamais fait confiance, tu ne vois pas à quel point je suis malheureuse ». Et ce regard de Sandrine Bonner que Pialla filme de façon absolument magnifique, ça reste absolument bouleversant, comme reste bouleversant son apparition dans le dîner dans lequel il règle des comptes avec un peu tout le monde, avec notamment Jacques Fieschi, le cinématographe, enfin bon, plein de choses, et qui est d'une violence, d'une... Ça, et je trouve ça absolument formidable. Et juste, je sais qu'on ne peut absolument rien dire contre Piala, mais quand même, je vais le faire tout de même, vous me connaissez, c'est de dire que c'est tellement réussi et tellement fort dans cette douceur et cette douleur mêlée que je ne vois pas pourquoi il a tenu à garder les deux scènes véritablement hystériques. C'est-à-dire, je sais, on va me dire, mais Piala, c'est caractérisé par ça. Oui, mais je trouve que les deux scènes où Evelyn Kerr, la mère, commence à taper sur Sandrine Bonnaire, et après où Dominique Besnéard revient et retape dessus, c'est inutile. Les scènes sont pas bonnes, les acteurs sont pas bien, il aurait fallu les couper, parce que cette violence, elle existe vraiment dans tout le film, et cette douceur aussi. C'est un très très grand film, et Sandrine Bonnaire est magnifique.
Je précise que sur le scénario originel, Piala devait mourir, oui, et qu'il s'est refusé à disparaître dans son propre film, Camille.
Oui, c'est assez joli ce que vient de dire Pierre Murat sur le film. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, à part que bon, c'est vraiment Bonnaire qui apparaissait à l'époque et qui s'en était pris plein la figure quand même. Faut se rappeler que tout le monde disait qu'elle c'était l'actrice d'un seul rôle et qu'elle jouait ce qu'elle était dans la vie et qu'elle n'aurait plus rien fait ensuite. Enfin, il y avait elle dans le côté populaire, un petit peu comme ça, d'une jeunesse moderne. Il y avait Béatrice Dalle qui apparaissait dans Transat le matin et dans un autre style, Sophie Marceau, qui après la boum, dans lequel Bonnaire a fait de la figuration, il paraît, a joué dans Police, que Bonnaire a refusé depuis là avant de le retrouver dans Sous le soleil de Satan. Donc en fait, c'est quand même toujours très beau de voir un cinéaste, en plus un cinéaste comme Piala, qui effectivement est connu plutôt pour sa violence et sa cruauté, regarder aussi tendrement un être comme cette actrice qui est Sandrine Bonnaire, qui le retrouvera ensuite dans Sous le soleil de Satan, où il jouera aussi, parce que c'est un très bon acteur, hein, faut pas oublier de dire, Piala. Simplement, oui, qu'est-ce que je peux dire de plus que c'est un très très beau Piala, qui en même temps c'est un peu l'aboutissement d'une de ces périodes de cinéma d'hyvérité, comme ça, de cette espèce de naturalisme un peu hystérique. Et c'est vrai que moi je me souviens que le personnage de Besnéard m'avait totalement terrifié à l'époque, dans cette espèce d'hystérie de folle et de méchanceté. Enfin, il y avait vraiment quelque chose qui m'avait fait très peur. Après, il a fait des films plus esthétiques, enfin comme ça, plus posés, que j'aime beaucoup, les Van Gogh, le Garçu ou Sous le soleil de Satan. Et donc là, il atteint peut-être une sorte de summum de ce qu'il peut faire avec une forme de tournage et de cinéma découverte.
Michel.
Oui, 40 ans après, ça reste extraordinaire. C'est-à-dire que c'est d'autant plus frappant que parfois les films naturalistes, parce qu'il y a un côté naturaliste chez Piala, vieillissent. Ça vieillit pas du tout. D'abord, c'est peut-être un des films où on a une révélation inouïe sur l'écran. C'est-à-dire, il faut dire que ce que fait Sandrine Bonnaire, qui avait 15-16 ans à l'époque, c'est tout à fait extraordinaire.
Donc ça n'était pas le premier film.
Non, elle avait des tout petits rôles.
Mais c'est celui qui, évidemment,
non, elle avait des tout petits rôles. Personne ne l'a mentionné.
L'a révélé au sens
elle
propre.
Éclate littéralement. Et voilà. On voit le regard de Piala, le regard amoureux du père pour sa fille dans le tramway à la fin, par exemple, avec la musique de Purcell. Bon, c'était un très grand moment. Moi, ça me gêne pas, les scènes de violence. Alors, l'auditeur n'a pas à le savoir, mais tout le monde savait à l'époque que c'était la vie de Claude Berry. On sait que Piala a été marié avec la sœur de Claude Berry, Ariette Longbain, qui a d'ailleurs écrit le scénario, et que Claude Berry était fou de rage contre le film, et peut-être à juste titre, parce qu'il disait « ça n'a aucun rapport avec ma famille ». Mes parents n'étaient pas du tout comme ça, ils s'aimaient beaucoup, mon père était merveilleux. Bon, mais ça, on s'en fiche à la limite, c'est la liberté. Mais ce que je trouve absolument extraordinaire, c'est ce mélange d'anciens et de nouveaux. Piala, il n'aimait pas la nouvelle vague, on le sait. Car il aimait la tradition, il adorait Sautet, il adorait Duvivier, etc. C'est-à-dire, il aimait ce naturalisme. Donc il y a ce côté naturaliste dans le film, et en même temps, il y a la nouveauté qui est cette semi-improvisation, comme dans la grande scène du repas à la fin, où tout le monde se déchaîne, etc., et que c'est absolument électrique. C'est ce mélange des deux qui fait, à mon avis, la grandeur de Piala.
Éric.
Ouais, c'est pas mal, mais est-ce que dans le genre, la boum, ça n'est pas mieux? C'est parce que le père avec l'adolescente. Non, je plaisante, mais à moitié, parce que le film est quand même fait de briques et de brocs. Hein. Il y a des hauts et des bas. Tout ce qui est le côté douceur dont parlait Pierre.
Tu parles comme Piala quand il parlait de ses films.
Eh ben, j'y suis pour rien, j'en sais rien. Le film a des faiblesses par moments. Il y a des temps morts, il y a des passages qui ne sont pas très bien écrits. Les scènes de ménage sont 100 fois plus réussies dans Nous ne vieillirons pas ensemble, qui est, à mon avis, le meilleur film de Piala. Là, c'est un peu surjoué, d'autant plus que Besnéard joue comme un cochon. Et l'actrice qui fait la femme n'est pas bonne du tout. Alors ça fiche un petit. Ouais, mais je sais pas qui c'est.
Tu préférais Besnéard dans le rôle du disquaire dans le machine.
Besner joue mieux dans la vie qu'à l'écran. Et la scène du repas à la fin n'est pas très très bonne. Heureusement qu'il y a Piala. Piala, c'est la révélation du film avec Bonheur. Quand on voit Sandrine Bonheur de dos au début, à la pointe d'un bateau, comme Caprio dans le Titanic avec la musique de Klaus Nomin derrière, on se dit, ça y est, il y a un miracle sur l'écran. Et elle prouve tout au long du film qu'elle va faire quelque chose ensuite. Et Piala, lui, c'est un acteur, mais qui me sidère là dans les scènes où ils sont tous les deux. C'est magnifique. Il y a une profondeur, il y a une douceur, il y a une tristesse.
Ah, les fossettes.
On pense à Gabin dans les années 30.
Mais presque mieux d'ailleurs.
Donc c'est À nos amours de Maurice Piala, c'est sur Amazon Prime et vous avez donc 10 autres films de lui depuis L'enfance nue jusqu'à Van Gogh. Allez, Âme perdue, on va aller assez vite, un film de Dino Risi qui ressort en DVD Blu-ray chez ESC, film de 77 avec Vittorio Gassman, Catherine Deneuve, ravissante, Anis et Alvina, et le tout jeune Danilo Mattei dans le rôle de Tino qui débarque à Venise pour faire des études aux Beaux-Arts. Il sera logé chez son oncle Fabio, joué par Vittorio Gassman, et sa tante Sofia, c'est Catherine Deneuve. Leur palais, on voit bien qu'il a été splendide, il est peut-être pas en ruine, mais en tout cas très très lézardé. Tino pense même qu'il est hanté parce qu'il entend la nuit des bruits, il faut dire très insolites, qui viennent du grenier. Et il finit par découvrir que son oncle cacherait, je dis bien cacherait au conditionnel, là-haut, un frère, autrefois brillant professeur, est devenu fou allié. Évidemment, je ne vous raconterai pas la fin, qui donne la véritable explication. Film inspiré d'un roman de Giovanni Arpino, qui a quand même terriblement vieilli. Je parle du film Eric.
Le film, effectivement, a vieilli. Le roman, je ne sais pas, c'est le type qui avait écrit Parfum de femme aussi, Arpino. Oui. D'ailleurs, il a une obsession, c'est que Parfum de femme, le titre est éloquent, mais là, il y a tout un passage où Gassman dit que les femmes sentent le romarin ou le fenouil, je sais pas.
Le fenouil.
Il y a un truc chez ce gars-là, et c'est un peu la même histoire que Parfum de femme. C'est
avec aussi Gassman.
Un gourdiflot qui déboule et qui est très impressionné par un type à bleur de 50 ans, qui est évidemment joué par Gassman, alors qu'il en fait des tonnes, on peut pas raconter tout. Mais là, c'est pas de l'acteur studio, c'est pas du Bresson du tout. Et le film, j'espère que Dino Risi s'en foutait un peu, parce que ça n'a aucun intérêt, tout est téléphoné. Venise, qui se voudrait crépusculaire, mortifère...
Elle est crépusculaire dans le film,
non, pas tellement. Elle est vraiment crépusculaire dans le film de Nicolas Roeg, Ne vous retournez pas. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment empesé, théâtral, et je sauverai Deneuve, qui est quand même un monument plus impressionnant à
Sauf
regarder.
Sauf que dans le film, on se demande, on a l'impression qu'elle se demande ce qu'elle fait là.
Peut-être que c'était pour rejoindre Mastroianni le soir, je ne sais pas.
Est-ce qu'elle le joue vraiment, Pierre?
Je pense que c'est peut-être aussi les mystères de la coproduction, quand même. Je pense qu'il y a aussi ça. Il voulait certainement tourner avec Deneuve parce qu'elle est sublime de beauté là-dedans, comme d'habitude. Mais alors, moi, j'avais un petit peu défendu avec Xavier le Parfum de femme, qui a été massacré ici. Et là, c'est un peu la même histoire, et évidemment.
Le Parfum de femme, c'est un chef-d'œuvre à côté.
Mais alors là, le petit problème, très rapidement, c'est que il faut pas raconter la fin. Mais le problème, c'est qu'au bout de un quart d'heure. Toute personne qui va au cinéma, mais qui est allée peut-être 10 fois dans sa vie au cinéma...
A compris ?
Ah bah oui.
Non.
Ah bah oui.
Non.
On sent qu'il y a Anguille Souroche.
On sent qu'il y a Anguille Souroche, mais moi, je n'avais pas deviné ce que j'ai appris à la fin.
Alors moi, ça
a été... On ne peut pas deviner réellement ce qui se passe.
Ah bah moi, je l'avais tout de suite compris. Je l'ai vu à l'époque. Là, évidemment, je l'ai compris, parce que je le revoyais.
Le rapport entre les deux, on ne peut pas deviner.
Mais alors, le problème, c'est que...
Toi, tu es très, très, très intelligent.
Oui, sûrement. Non, je crois que j'ai une intelligence moyenne, donc c'est vous qui étiez un peu fatigué, là, peut-être, pour le coup. Parce que vraiment, c'est très, très, très clair. Et alors, le problème, c'est que je trouve que la photo est magnifique. La maison, Venise.
Le palais, tu veux dire.
Le palais.
Pas la maison.
Le palais est splendide aussi dans sa.
Enfin, il a été splendide.
Venise est magnifique. La musique de Francis Lai est une horreur, d'ailleurs.
Une horreur.
Et le problème, c'est que Gassman est, si j'ose dire, sans rien trahir, il est à 50% ridicule.
Camille.
Bon ben voilà, on va être encore en porte-à-faux. J'aime beaucoup le film.
Tu aimes beaucoup le film ?
Ouais, j'aime beaucoup le film. Moi, en fait, c'est un film que j'ai vu il y a très longtemps. Je ne sais plus dans quelles conditions, mais je sais que j'avais eu très peur, que Gassman m'avait fait très très peur, et que cette espèce de monstre au grenier peinture lurée. Et en le revoyant, je trouve en effet, non mais il fait de toute façon très peur, même en ingénieur réac, totalement tyran domestique. Enfin là, on est autre chose. C'est autre chose que The Nest en termes de tyrannie domestique et de rapport gothique. mythique des maris qui épouvantent son épouse. C'est un film ville, c'est un film décor. C'est quand même magnifique la façon dont la décrépitude de la ville est filmée. Tout rouille, tout s'abîme, tout est dégénéré. De la même façon que l'histoire qu'on nous raconte est une histoire de gens dégénérés, parce qu'il s'agit quand même, par là-dessous, on dirait aujourd'hui, d'une histoire de pédophilie et de type totalement insane et dément. Bah oui, mais il faut dire quand même les choses. Parce que moi, j'avais pas deviné. C'est-à-dire que, par ailleurs, oui, mais bon, en disant ça, je dis pas grand-chose.
Il faut pas piquer le job de Pierre.
Par ailleurs, c'est un film jamesien et assez vénitien de James, c'est-à-dire comme ça, dans des vieilles demeures lugubres avec des mystères qui sont au grenier et beaucoup de poussière et de courant d'air et d'humidité et de moussu. Et comme c'est un film qui fait peur, et je trouve vraiment que c'est un film qui fait peur et qu'on voit bien la peur sur le visage de Deneuve qui blêmit au fur et à mesure du film, ça ne peut être que raconté par une forme esthète, parce que ce que ça raconte, c'est quand même très dur. Hein, si on ne peut pas dire la fin, mais ça raconte quand même quelque chose de très, très épouvantable. Et il n'y a que la façon dont les personnages sont les narrateurs de leur propre histoire, les monologues de Deneuve sur le temps qui passe, sur la vieillesse, le monologue de Gassman, qui est vraiment terrorisant. Moi, ce n'est pas un acteur que j'adore parce qu'il me fait peur, en fait. C'est un type très, très grand, très beau, mais complètement, on dirait dans Don Juan, le commandeur. Enfin, vraiment, il est sculpturalement lugubre. Et je trouve que cette façon théâtrale de raconter cette histoire épouvantable confère à tout ça quelque chose de vraiment horrible. Que je trouve que c'est un film vraiment, vraiment qui marque. Quoi.
Michel ?
Je suis content d'être d'accord pour une fois avec Camille, parce que je trouve ce film très envoûtant. Je trouve que Deneuve n'est pas du tout sacrifié. C'est une femme qui est montrée comme rêveuse, comme masochiste.
Ah non, elle a tout le temps mal à la tête. Hein.
Elle est masochiste, elle est emprisonnée, elle est enfermée dans ce palais avec ce mari. Venise, c'est vrai, inspire toujours cette idée de décadence, de décrépitude. C'est admirablement montré. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est comment les grands auteurs de comédie peuvent être aussi des grands auteurs de gothique. Regardez Billy Wilder, il fait Sunset Boulevard, il fait Certain Lame Show, il fait Fedora, il fait La Garçonnière. Il y a une tendance chez les grands auteurs de comédie d'aller à l'autre extrême, parce que peut-être le rire et la peur fonctionnent suivant les mêmes mécanismes. Et j'ai trouvé ce film, avec d'autres films de Risi méconnus, comme La Chambre de l'Évêque, mérite vraiment d'être revu. Et Gassman, évidemment, c'est normal qu'on dise il en fait de trop, mais il a toujours fait de trop. Gassman est un personnage, c'est comme Pierre Brasseur. C'est comme si on disait Pierre Brasseur, il en fait vraiment de trop.
Non, mais là, à côté Michel de Simon, c'est Alain Cuny.
Non, mais
oh non.
Gassman est absolument formidable. Et ce palais gothique existe vraiment dans notre souvenir.
Âme perdue, c'est donc Dino Rezzi, c'est chez ESC. Je signale deux coffrets Dino Rezzi, l'un chez LCJ avec 5 films restaurés, Le sexe fou, Les monstres, Dernier amour, La carrière d'une femme de chambre et Le fanfaron. Et l'autre coffret se trouve chez M6 Vidéo avec 3 films, Pauvre mais beau, Beau mais pauvre et Pauvre millionnaire. Et on termine avec Muriel ou Le temps d'un retour, film de 1963 dont je pressens qu'il va diviser nos critiques. Le 4e long-métrage d'Anna René après l'année dernière à Marienbad. Et Muriel ressort en version restaurée chez Potemkin. On est en 62. Hélène, c'est Delphine Seyrig, vit à Boulogne-sur-Mer où elle est antiquaire avec son beau-fils Bernard, c'est Jean-Baptiste Thierry, qui revient de son service militaire en Algérie. Elle invite son amour de jeunesse, Alphonse, qui est joué par Jean-Pierre Kérien, qui arrive avec sa prétendue nièce, Françoise, qui est une actrice débutante, c'est Nita Klein. Le film donc va raconter cette étrange cohabitation très imprégnée de passé. Je signale en bonus notamment un entretien d'ailleurs dans cette réédition avec Philippe Faucon, le cinéaste de La Trahison. Michel.
C'est un chef-d'œuvre absolu. C'est le 3e film de René après Marienbad et Hiroshima. Je ne connais pas un triplé pareil pour commencer une carrière de cinéaste. On retrouve tous les thèmes de René, qui sont en particulier le temps. C'est un film qui joue sur le temps en permanence, puisque c'est le rapport entre Delphine Seyrig et cet amour qu'elle a connu avec un autre homme qui revient. On ne sait pas si vraiment ça a été un grand amour, mais en tout cas, le temps est là. C'est un film sur un décor, sur une ville, comme Hiroshima, comme Nevers, comme Marienbad. C'est-à-dire qu'il y a une façon de montrer la ville de Boulogne qui est à moitié détruite, elle aussi marquée par le temps. Je me rappelle que quand je l'ai vu, j'avais 25 ans, c'était un séisme pour moi. C'était un film absolument extraordinaire. Et Henri Langlois disait, il a inventé le dodécaphonisme cinématographique. Il est le Schoenberg du cinéma. Et je pense que ce film est unique au monde. C'est un film qui est resté totalement audacieux et novateur. 60 ans plus tard, il reste aussi audacieux qu'il l'était à l'époque.
Éric ?
Ben, c'est le seul René que je ne connaissais pas. Alors du coup, je pensais que j'allais t'engueuler. Mais finalement, je vais te remercier parce que je sais que je n'aurai plus jamais à voir de ma vie un film de René après ça. Parce que c'est vraiment un film en couleur qui réussit à être complètement gris. C'est quelque chose de complètement atone, empesé, amidonné, littéraire dans le mauvais sens du terme. C'est l'équivalent exact du nouveau roman à l'écran. Moi, c'est tout ce qui ne me plaît pas. On voit quelqu'un qui se regarde filmer, qui s'écoute écrire. C'est
là,
tout le
c'est
temps
honnête,
la
caméra. C'est pas Muriel.
Non. Et sur l'incommunicabilité de ces années-là, les films d'Antonioni en disent mille fois plus.
Ça n'a rien à voir avec
ça. Ah, si, un petit peu.
C'est filmé, non. On dirait un film des années 30. C'est pour ça que ça permet de comprendre la dernière période de René, qui renouait avec des comédies musicales des années 30, etc.
C'est-à-dire ça n'a rien d'une comédie musicale, là.
L'attachement de René au cinéma populaire.
Mais il n'y a que des tics de technique.
Quand le personnage là-dedans. Commence à chanter, c'est on connaît la chanson. Un personnage se met à chanter comme dans un film des années 30, dans un film français des années 30. Il rejoint comme Piala la tradition et la nouveauté.
Non, c'est un film qu'il faut voir les yeux fermés pour écouter la voix de Delphine Seyrig, c'est tout.
Pierre ?
Moi, je suis plutôt du côté de Michel avec quelques petites réserves, mais il y a une scène absolument dont on n'a pas encore parlé, qui est la scène de Muriel, en quelque sorte.
La guerre d'Algérie, bien sûr.
L'Algérie, c'est-à-dire que Jean-Baptiste Hiéré, qui revient et qui revoit ce qui s'est passé en Algérie. Je crois me souvenir, enfin, parce que j'étais un petit peu adolescent, mais quand le film est sorti, c'était un séisme, là, pour le coup, de montrer l'Algérie comme ça, enfin, c'est-à-dire personne n'osait le faire, cette guerre sans nom, et c'est un film qui osait ça. Par ailleurs, c'est un film aussi, évidemment, très intellectuel sur l'appartement de Delphine Seyrig, représente, évidemment, l'inconscient des personnages, bien entendu, enfin, c'est ça. Et il y a c'est un film qui est très bien, et il y a une réplique qui définit pour moi le film et l'absurdité de René, qui va devenir de plus en plus jeune et donc de plus en plus léger par la suite. Il y a un repas et Delphine Seyrig s'écrit « C'est terrible, nous mangeons comme si nous étions pressés ».
Ce film, je le rappelle, de 63. Camille ?
Je trouve que le film, comme Mon oncle d'Amérique, comme le plus grand René, a très bien vieilli, en mélangeant, comme il le fait souvent, quelque chose de très politique, expérimental et en avance sur son temps, et en même temps, en effet, quelque chose de très désuet, passéiste, et sur la mémoire, parce que c'est quand même le grand cinéaste de la mémoire, et tout fonctionne par flash chez lui, par flashback, qu'on revienne sur la Deuxième Guerre mondiale, ou sur la guerre d'Algérie. Et en effet, en 63, la guerre d'Algérie venait de s'achever, de faire un film parce qu'il a toujours fait ça, René, c'est quand même pas juste un esthète pendu dans sa chapelle, c'est quelqu'un qui a toujours traité de la guerre d'Algérie, de la Deuxième Guerre mondiale, d'Hiroshima, et de problèmes politiques de son temps. Et là, c'est quand même Jean Cayrol qui a été aussi à l'origine de Nuit et brouillard de René, qui a écrit le scénario, qui mélange comme ça, en effet, une guerre de jeunes, les jeunes gens de la guerre d'Algérie, avec une guerre d'anciens, et en même temps coloniaux, qui est joué par, comment s'appelle-t-il, Jean-Pierre Kérien, Alphonse, qui est une espèce de vieux beau mythomane. Et c'est ça qui est assez beau, c'est qu'en fait, c'est un film sur la mémoire, mais qui filme un mythomane total, en la personne de cet Alphonse, ce vieux beau charmeur qui cherche de l'argent et qui raconte sa vie, qui est raciste et qui se la joue. J'étais à Alger, j'adorais ça. Et c'est un film très très curieux, qui a pas du tout vieilli, comme souvent les expériences comme ça d'un seul jour vieillissent mal. Non, il y a une force, une colonne vertébrale chez René qui fait que ça ne vieillit jamais. Ça n'est pas du choc-toc comme dans Pieces of a Woman.
Muriel ou le temps d'un retour, c'est Alain René, c'est chez Potemkin. Et ce soir, au moins, vous n'arrêtez d'accord sur aucun des films, ce qui est, voilà, c'est bien à l'image du masque. Allez, on termine avec des conseils, on commence par Camille.
Bien justement, puisque étrangement, Fille Faucon est dans les bonus de Muriel, je voulais attirer l'attention sur un film qui est passé à la télé et qui est encore sur France TV Replay jusqu'au 3 mars, de Philippe Faucon, qui a passé inaperçu, qui s'appelle La Petite Femelle, qui est d'après le livre de Philippe Génada, qui s'appelait déjà La Petite Femelle, sur l'affaire Pauline de Buisson, cette... cette jeune femme qui avait assassiné son amant en 1950 et dont Henri-Georges Clouzot avait fait la vérité avec Bardot, et le film qui est sorti au moment où elle était encore vivante l'a fracassée. Elle sortait à peine de prison et elle pensait refaire sa vie, et le film l'a empêchée, et donc elle est partie mourir peu de temps après dans une grande dépression au Maroc alors qu'elle voulait être médecin. C'est un très très beau film de Philippe Faucon qu'il faut absolument voir et que je vous conseille jusqu'au 3 mars.
Je conseille même tous les films de Faucon.
Oui, mais celui-là, Pierre, est passé inaperçu.
Un livre sur Marco Ferreri, qui est évidemment le cinéaste de La Grande Bouffe, mais aussi de Lisa, de Touche pas à la femme blanche, de plein de films, de I Love You, Lillinger est mort. Et c'est de Gabriella Trujillo, c'est aux éditions Capricci, et c'est un livre qui est à la fois intelligent, brillant, profond, et surtout lisible, c'est-à-dire que elle se perd pas en grandes phrases, c'est absolument facile à lire, magnifique, on apprend plein de choses, et je me dis que vraiment Ferreri nous manque beaucoup, qu'est-ce qu'on aurait aimé le voir traiter de tout ce que nous traversons actuellement.
Moi je conseille aussi un livre qui s'appelle « En cherchant Parvulesco » de Christophe Bourseiller, c'est à la table ronde. Parvulesco, vous l'avez sans doute tous oublié, c'est le nom de l'écrivain célèbre interviewé par Gene Seberg sur le tarmac d'Orly dans « À bout de souffle » de Godard, et qui est joué, Parvulesco, par Jean-Pierre Melville. Bourseiller, qui fut, on le sait, enfant acteur dans 3 films de Godard, enquête ici sur ce mystérieux Parvulesco, né en Roumanie, écrivain réactionnaire, ésotérique, totalement halluciné, hein, qui disait notamment de Vladimir Poutine que c'était une représentation sur Terre du Christ Pantocrator. On voit quand même qu'il était assez atteint. Un livre donc aussi, vous l'avez compris, sur Bourseiller, dont Parvulesco fut, là je le cite, le double maléfique, et c'est donc à la table ronde. Et c'est intéressant aussi, toute la partie sur Godard n'est pas d'ailleurs en sa faveur, mais très intéressante. Michel.
Alors, un objet très original, c'est le 20e anniversaire de Écouter le cinéma, que Stéphane Le Rouge, le grand spécialiste français de la musique de film. Alors c'est un livre disque, il y a d'une part 36 entretiens que Stéphane Le Rouge a conduits, Maurice Jarre qui nous parle de David Lean, Martial Solal qui nous parle de Godard, De Broca qui nous parle de Delerue, Costa Gavras de Michel Magne, etc. Donc 32 entretiens tout à fait passionnants. Et puis 50 musiques de films, Laurence d'Arabie, Pierrot Le Four, Rosemary's Baby, Le Boucher. Voilà, c'est chez Universal.
Universal. Le conseil pour finir d'Éric.
Je suis désolé, c'est le même que toi, Jérôme.
Ah bon?
Le Christophe Bourseiller, oui.
C'est la preuve qu'on ne prépare pas ensemble l'émission.
Oui, hein. Non, vraiment, un livre épatant.
Il est vraiment improvisé.
Ce Christophe Bourseiller, c'est quand même le gars qui, à 3 ans, a prononcé ses premiers mots devant une caméra, et c'était couille molle dans La Guerre des Boutons. Donc après ça, il pouvait jouer dans les Godards, et ça lui semblait tout à fait rigolo. Et c'est surtout le Lucien de Un éléphant, ça trompe énormément. L'étudiant de Feuillecote qui disait à Daniel Delorme « J'aime vos seins, surtout le gauche. » Et c'est un gars qui est aussi journaliste, historien, qui enquête sur des trucs bizarres. Et ce Parvulesco, ça lui donne un souffle, un mystère. Il en fait un personnage de roman.
Et t'es d'accord que la première partie sur Godard est très intéressante.
Très intéressant,
hein,
parce qu'il était
très naïf. Ce qui est très naïf chez Christophe Bourseiller, dont j'aime beaucoup le livre, c'est qu'il ne comprend pas comment Godard, qui est d'extrême-gauche, pouvait s'entendre avec Parvulescu, qui est d'extrême-droite. Mais à l'époque, Godard n'était pas du tout d'extrême-gauche.
Parvulescu qui faisait un éloge de Godard dans la presse espagnole en disant que c'était un grand écrivain, un grand cinéaste de droite.
Fasciste même, que la Nouvelle Vague était fasciste. Oui, le type était pro-AS, complètement fou. C'était un Roumain qui aurait traversé à la nage le Danube pour fuir son pays. Mais on est sûr de rien. Et Burgala, le musicien qu'il connaissait un petit peu, disait de lui, si ça se trouve, il est né à Cachan.
Tous ces conseils, y compris celui que nous avons en commun avec Éric, eh bien, vous les trouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Camille Nevers, Pierre Murat, Michel Simon, Éric Nehoff pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lysiane Selam. Et ce soir, au Théâtre de l'Alliance Française, à la technique, il y avait, et je les remercie, Antoine Espel ainsi que Benjamin Vignal, la réalisation était signé Xavier Pestugia. Dans une semaine, on parlera de littérature. À dimanche prochain sur France Inter, évidemment.